AfriJet Fly Gabon, le cœur de l'Afrique vous est ouvert.
RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
Le journal Nemo en Peace.
Et à la une, ces deux ans d'une attente, d'une douloureuse attente, celle des proches de Martinez Zogo. Le 17 janvier 2023, l'animateur radio était enlevé à Yaoundé, retrouvé mort cinq jours plus tard. Niveau judiciaire, l'affaire en est toujours au stade procédural. Vous entendrez Flore, la sœur aînée de Martinez. Les provinces congolaises de l'Ituri et du Nord Kivu vont-elles voir leur état de siège levé? La mesure avait été prise en avril 2021, mais Félix Tshisekedi, en personne, a demandé une feuille de route à ses ministres pour une levée progressive. La situation dans l'est de la RDC, l'un des sujets largement évoqués hier à Paris, alors que João Lourenço, le président angolais, entamait une visite d'État de deux jours. Et puis notre dossier ce matin à Brazzaville, où une exposition photo est consacrée à ces étudiants qui, contraints par les coupures d'électricité, révisent sous la lumière des lampadaires. Le 17 janvier 2023, l'animateur radio Martinez Zogo était enlevé à Yaoundé avant d'être retrouvé mort cinq jours plus tard, nu, sur un terrain à l'extérieur de la capitale. Lui qui, dans son émission, dénonçait toute forme de corruption, invectivait les puissants sans jamais pour autant s'en prendre au président Paul Biya. Et deux ans après, la justice camerounaise semble toujours enlisée dans des questions procédurales, alors que 17 accusés doivent être entendus. Deux ans, jour pour jour, après sa disparition, Flore Zogo, la grande sœur, évoque une attente douloureuse et un sentiment d'impuissance.
Il y a un an, je ne pensais pas qu'à cette heure, à ce moment, on n'aurait pas de réponse, on n'aurait pas de solution. Tous les souvenirs remontent à la surface et franchement, c'est très dur. On est vraiment face à une impuissance qui n'a pas de nom, on ne peut rien faire en fait. Si la procédure judiciaire traîne, moi je pense que c'est quelque chose de prémédité, c'est vraiment politique. Et je ne sais même pas si ça vaut la peine de le faire, mais bon, s'il y a une demande, si je peux demander quelque chose, c'est que la justice fasse son travail et rapidement. Nous n'en pouvons plus, nous voulons connaître la vérité. Et comme ça se doit, et que dans quelques mois, qu'on sache qui sont les commanditaires, les meurtriers, et puis qu'on fasse notre deuil, qu'on fasse nos obsèques dans la dignité et l'honneur que mérite notre frère.
Cette affaire Martinez Zogo, on continue d'en parler sur RFI juste après ce journal. Christophe Bobo-Kiono, chroniqueur judiciaire, est l'invité de Christophe Boisbouvier. La mesure avait été décidée il y a près de 4 ans dans l'est de la République démocratique du Congo, des états de siège pour les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vont-ils être allégés? La question se pose après cette demande de Félix Tshisekedi, le président, lors d'un conseil des ministres extraordinaire tenu mercredi. Le chef de l'État attend de son équipe une feuille de route histoire de progressivement mettre fin à ces états de siège. Explication, Alexandra Branjon.
Le gouvernement a 15 jours pour remettre au chef de l'État une feuille de route en vue d'une levée progressive de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Cette mesure exceptionnelle avait été décrétée en avril 2021 par le président Tshisekedi pour rétablir la paix dans ces deux provinces menacées par l'insécurité. Mais depuis, son efficacité est remise en cause, à commencer par la société civile et les députés des provinces en question. Cette mesure n'a pas apporté les résultats escomptés, faisait remarquer il y a peu Gratien Hirachan, l'élu de Bounia en Ituri. La levée de cette mesure, avait-il ajouté, permettrait de rétablir les autorités civiles et permettrait ainsi à l'armée de se concentrer sur les opérations militaires contre les rebelles du M23 et des ADF. Il y a deux mois, la première ministre s'est rendue dans les deux provinces pour dresser un bilan de ce dispositif. La mission a conclu que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité, a fait savoir le porte-parole du gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres, tout en ajoutant que le besoin d'alléger davantage le dispositif s'était fait sentir au sein des populations concernées.
Et au moins une vingtaine de civils tués dans plusieurs attaques des forces démocratiques alliées, des attaques qui ont eu lieu mercredi dans le territoire de Lubero. Selon l'administrateur militaire du territoire, les incursions ont eu lieu dans le groupement Boulenga, où des civils, dont un chef coutumier, ont été décapités. Le colonel Kiwewa appelle à des mesures urgentes. Un autre responsable local parle, lui, d'une situation catastrophique. L'est de la RDC est donc marqué par la violence de nombreux groupes armés, par celui du M23 également. Crise entre Kigali et Kinshasa que l'Angola tente de contenir. Une crise évoquée longuement lors du premier jour de la visite d'État du président angolais João Lourenço en France. Accompagné d'une dizaine de ministres, il a participé à une réunion de travail avec son homologue Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont engagés à renforcer les consultations politiques au niveau mondial, mais aussi donc au niveau régional. Lisa Fabian pour le récit.
Les présidents français et angolais appellent à la reprise des discussions au plus haut niveau entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Emmanuel Macron a souligné que son pays et l'Angola occuperont bientôt des positions diplomatiques clés sur la scène internationale.
Dans quelques semaines, vous prendrez la présidence de l'Union africaine et je vous souhaite tout le succès requis. Et la France aura en 2026 la présidence du G7. Nous avons évoqué la crise des Grands Lacs et nous y reviendrons. La France soutient votre investissement sans relâche dans le cadre du processus de Luanda. La priorité doit aller au dialogue, à la recherche d'une paix durable, dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
Cette visite d'État comprenait aussi un important volet économique. La France et l'Angola ont notamment annoncé la signature de contrats et d'investissements s'élevant à plus de 420 millions d'euros. João Lourenço s'en est félicité.
Nous allons développer encore notre coopération dans le domaine de l'agriculture, du tourisme, de la santé, de l'enseignement supérieur, des ressources minérales, du pétrole et du gaz. Dans le secteur de l'assainissement de l'eau, les investissements du groupe Suez sont déjà une réalité dans la capitale Luanda pour assurer l'accès à l'eau potable pour plus de 3 millions de personnes.
Ce vendredi, la délégation angolaise est reçue au siège du MEDEF, le patronat français, dans le cadre d'un forum économique.
On reparle RDC dans ce journal. Direction désormais le Sud Kivu et sa capitale Bukavu, où un tribunal a condamné cette semaine 3 ressortissants chinois. Chacun écope d'une peine de 7 ans de prison et devra s'acquitter d'une amende de $600,000. Ils avaient été tous 3 arrêtés début janvier en possession de 10 lingots d'or et de $400,000 en espèces. Et ce ne sont en fait pas les seuls Chinois à faire face à la justice congolaise pour le même motif. RFI Bukavu, William Bassimike.
Le tribunal de grande instance de Bukavu les a reconnus coupables de fraude, de blanchiment d'argent et de pillage, une sentence prononcée après des mois d'enquête sur les activités minières illégales. Les avocats des accusés ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel. Ils estiment que le jugement est injuste et sentimental. « Nos clients ne sont pas satisfaits de la décision », a déclaré Maître Arsène Mouaka, l'un des avocats de la défense. Pour la partie civile, c'est un procès pédagogique qui servira d'avertissement pour dissuader des futures illégalités minières en RDC, souligne Maître Christian Wanduma, l'un des avocats de la partie civile qui a salué la décision du tribunal. De son côté, la société civile insiste pour que les condamnés purgent leur peine en RDC. Elle regrette cependant que les procès s'intéressent aux simples individus négociants d'or au lieu de toucher les grandes sociétés minières qui, selon l'un des acteurs, Tiber Kajemba, seraient plus bénéfiques pour les communautés locales et la RDC en général. 10 autres Chinois comparaissent au tribunal de grande instance de Bukavu depuis mercredi dans un autre procès pour notamment blanchiment des capitaux, exploitation illicite des minerais, vol des substances minérales, entrave à la transparence et à la traçabilité dans l'industrie minérale, ainsi que la fraude et le pillage des ressources naturelles minières. William Bassimike, Bukavu, RFI.
En bref, un ressortissant espagnol enlevé mardi soir en Algérie, près de Tamanrasset, dans le sud du pays. Il aurait été emmené au Mali voisin. Madrid dit travailler activement pour clarifier les faits. Plus de détails dans le prochain journal. Rendez-vous à 8h. Heure de Paris. De nouvelles sanctions américaines à l'encontre des chefs des deux camps qui s'affrontent au Soudan. Il y a une dizaine de jours, Washington épinglait le général Emeti, chef des forces de soutien rapide. Et hier, c'était au tour du général Abdel Fattah al-Burhan d'être sanctionné. Des gestes qui, selon le secrétaire d'État Anthony Blinken, confirment la position américaine selon laquelle aucun des deux n'est apte à diriger un futur Soudan pacifique. L'armée soudanaise récemment accusée d'atrocités commises contre des civils. Les dernières rondes date samedi, alors que les hommes d'Al-Burhan avaient repris la main sur Wad Madani dans l'état d'Al Jazeera. Des vidéos montrent des violences contre des Soudanais originaires de l'Ouest, mais aussi des Sud-Soudanais. L'armée a condamné des actes qu'elle qualifie d'individuels. Mais au Soudan du Sud, la colère est vive. Le ministère des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur soudanais mercredi. Et hier, des manifestations ont éclaté à Djouba. La société civile, de son côté, se mobilise pour demander des comptes. Sur place, Florence Mietto.
Les vidéos sont insoutenables. Des hommes portant l'uniforme de l'armée soudanaise arrêtent, exécutent, égorgent des civils et se filment, paradant en toute impunité. John Samuel Bogo, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, explique avoir convoqué l'ambassadeur soudanais pour exprimer l'inquiétude de Djouba et demander à ce que les autorités soudanaises facilitent une visite sur place à Madani.
Ainsi, nous pourrons recueillir les faits, voir ce qui est arrivé et à qui offrir des services consulaires et aussi informer leurs familles qui sont au Soudan du Sud.
L'ambassadeur du Soudan, Issa Mohamed Hassan Karar, a quant à lui affirmé que ces violations des droits humains avaient été commises par, je cite, des membres de milices.
Nous avons créé une commission pour enquêter sur ces crimes, afin que leurs auteurs soient identifiés et arrêtés, et afin de comprendre les motivations de ces criminels.
La société civile s'est largement mobilisée ce jeudi à Djouba. Taban Paride Locas Moy, président du syndicat national de la jeunesse du Soudan du Sud, s'est dit dévasté et traumatisé.
Nous demandons à notre gouvernement, aux agences de l'ONU et tout particulièrement au HCR, car les personnes tuées sont des réfugiés, de rapatrier ou d'évacuer les Sud-Soudanais vers un lieu sûr.
Il appelle à la création d'une commission d'enquête internationale et demande aux jeunes Sud-Soudanais de rester pacifiques dans leurs protestations. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Direction Brazzaville pour notre dossier du jour. Capitale qui vit au rythme des coupures d'électricité. Et face à ce phénomène, de nombreux étudiants, pour réviser le soir, prennent place sous des lampadaires. Une tranche de vie qui fait l'objet d'une exposition photo. Loïcia Martial est allée rencontrer ces étudiants qui, à la nuit tombée, travaillent en extérieur. Reportage.
La nuit est sur le point de tomber sur Brazzaville. Nous roulons sur la corniche qui borde le fleuve Congo. Au sortir du pont du 15 août, l'obscurité est omniprésente, faute d'électricité. Il faut rouler sur plusieurs kilomètres pour trouver quelques lampadaires qui éclairent la voie, notamment au croisement de la rue Kitenge à Makelekeni. Quelques jeunes élèves révisent leurs leçons sous le cône de lumière.
C'est une bonne chose en fait, c'est bien éclairé et il y a de l'air pur, du coup tu as plus de concentration et tu n'as pas du mal à mémoriser tes leçons.
Il y a de l'air pur, donc c'est frais. Quand tu lis, il n'y a pas de dérangement, tu es là au calme. Les leçons, tu as la facilité de retenir ce que tu lis.
Cependant, quelques étudiants évitent parfois la lecture sous les lampadaires.
Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Et lorsque tu arrives là-bas aussi, tu peux être distrait et la lumière des lampadaires là aussi sur le cahier aussi, ça peut frapper aux yeux et ça peut créer des maux d'yeux, tout ça.
À Brazzaville, quand l'énergie domestique est coupée et les lampadaires ne s'allument pas, les étudiants sont contraints de lire à la lumière de la bougie, voire du téléphone.
Écoutez, Baudouin Mwanda, il est à l'origine de cette exposition.
Quand je parle des fantômes, je fais plutôt allusion lorsqu'il y a coupure. Vous êtes en train de lire et tout de suite vous avez coupure d'électricité. On a comme l'impression que plus loin, il y a une torche qui s'allume. Et cette torche-là, on a l'impression, c'est comme si c'était quelqu'un qui était caché. Et c'est pourquoi est-ce que l'intuition était venue pour pouvoir appeler cette série « Les fantômes des corniches ». Aujourd'hui, on se rend compte que les continents africains et un peu en avance de parler du développement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement tant que la copie sur la question de l'électrification n'est pas résolu. Et ce sont les mêmes jeunes que nous voyons, qui étudient dans de rue. Aujourd'hui, lorsqu'il part en Europe, il ne revient plus. Et pourtant, aujourd'hui aussi, on parle généralement de pouvoir aider les jeunes. Ces jeunes étudiants, lorsqu'ils vont étudier à l'extérieur, on a bien envie de revenir avec des projets. Mais lorsqu'on se rend compte que nous allons créer une entreprise et qu'on n'a pas vraiment de l'énergie qu'il faut, on a comme l'impression, c'est comme si nous tournions